Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats, d'opinions. Comme tous les jours, vous le savez, vous aurez la parole dès 13h. Si vous souhaitez réagir à l'actualité, n'hésitez pas. On attend vos appels au 3210. Et justement, les titres de ce mardi 2 août, les voici. Vous allez peut-être recevoir un virement inattendu sur votre compte en banque aujourd'hui. Oui, oui, c'est possible. Les impôts, figurez-vous, procèdent à des ajustements. À son tour, le SAMU se retrouve débordé, censé faire un filtre avant les urgences. Les appels au 15 ont augmenté de 21% en un mois. Pendant plus de 20 ans, les États-Unis n'ont rien lâché. Ils ont continué à traquer les cerveaux du 11 septembre. Dernière cible, Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, tué à Kaboul samedi dernier. Nous y reviendrons avec notre invité, Eli Tenenbaum, chercheur, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Nous parlerons également dans cette édition de la mort de Michel Berger. C'était il y a 30 ans, jour pour jour. Le chanteur-compositeur était terrassé par une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. Venez nous en parler justement, nous dire quelle chanson de l'artiste vous émeut toujours autant. Au 3210, vous le savez, vous pouvez réagir sur de très nombreux sujets. Très éclectique aussi, je vous rappelle la question du jour par exemple sur RTL.fr. Allez-vous monétiser vos RTT? Vous dites oui à 16%. La météo, bonjour Anthony Kazmarek.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Ça y est, la vague de chaleur touche tout le monde.
Exactement, il n'y a que près de la Manche où on sera en dessous de 30 degrés. Écoutez ces températures qui font rêver. 21 à Boulogne-sur-Mer, 25 à Brest et à Cherbourg. Et puis on aura 29 à 33 degrés dans les autres régions de la moitié nord. 29 à Lille, 32 à Paris, à Strasbourg et à Rennes. 33 à 37 dans le sud, 34 à Lyon, 35 à Grenoble, 36 à Bordeaux et Toulouse, 37 à Marseille et Perpignan. Jusqu'à 39 degrés même prévu à Nice. Je vous rappelle que 5 départements du sud-est sont en vigilance orange canicule entre le Roussillon et la basse vallée du Rhône. Côté ciel, c'est simple, du plein soleil pour tout le monde, à peine voilé dans l'extrême nord du pays. Quelques grisailles côtières pourraient persister sur le Finistère et le Cotentin. Et puis une petite averse sera possible en fin de journée sur les reliefs du sud. Malheureusement, le Mistral va encore souffler un peu, jusqu'à 50 km/h en rafale dans la vallée du Rhône.
Merci beaucoup Anthony, on vous retrouve tout à l'heure à 13h.
RTL Midi.
Composer le 15 avant de se rendre aux urgences pour désengorger les hôpitaux. Cet été, une campagne a été lancée. RTL dresse un premier bilan de cette opération. Ce n'est pas fameux. Non seulement les urgences restent saturées, mais les plateformes du SAMU le sont également. Il n'y a pas assez de médecins régulateurs pour répondre aux appels qui ont quand même augmenté de 21%. Ce chiffre nous a été donné en avant-première ce matin sur RTL par Marc Noiset, président de SAMU Urgence France. Et l'hôpital d'Arras, dans le Pas-de-Calais, a carrément mis en place un SAS avant le SAMU, pour tenter, là aussi, de fluidifier les appels, Perrine Roguet.
Oui, bonjour monsieur, le SAMU, c'est pour votre fils, d'accord? Il a fait une chute, c'est ça monsieur?
Dans le flot d'appels quotidiens, il faut répondre à la question principale.
Ce que j'ai, est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça doit être traité tout de suite?
Pierre Valette est le directeur médical du SAMU du Pas-de-Calais. Le but de ce SAS, c'est de répondre d'un côté aux inquiétudes, puisque l'appel au 15, c'est souvent le dernier recours, quand il est impossible de joindre son médecin, mais aussi de soulager des équipes médicales épuisées.
Les urgences pour les urgentistes, les soins non programmés pour les médecins généralistes, chacun retrouver son rôle et finalement s'y épanouir.
Des médecins de ville peuvent ainsi prendre en charge des consultations non prévues, c'est-à-dire dans les 24 heures, et pour un tel dispositif, il faut des bras.
C'est énorme ce qu'il va nous falloir comme moyen. Clairement, si on voulait vraiment atteindre un niveau de fonctionnement optimal, il faut une trentaine de personnes en plus pour faire fonctionner un SAS départemental dans un département comme le nôtre.
Une organisation qui ne change rien pour les patients, c'est toujours le 15 qu'il faut appeler en cas de besoin.
Le reportage de Perrine Roguet pour RTL. Si vous avez eu ce réflexe d'appeler le 15 avant de vous rendre aux urgences cet été, n'hésitez pas à nous appeler au 3210. Votre témoignage nous intéresse. Hausse de plusieurs allocations, des pensions de retraite. Un premier volet de mesures doit définitivement être adopté demain par les parlementaires. mesure pour booster le pouvoir d'achat. Cela comprend aussi la possibilité de monétiser des RTT, si vous préférez, de l'argent à du temps de repos. Le Sénat a validé cette mesure cette nuit, ce qui provoque d'ailleurs la colère à gauche, qui voilà une remise en cause des 35 heures. Écoutez Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados.
En fait, on va donner l'illusion d'une augmentation de salaire avec la possibilité de faire rémunérer des RTT, de les transformer, de les monétiser. Mais finalement, derrière, c'est une monétisation plutôt qu'une augmentation de salaire. Et nous, évidemment, on défend l'augmentation de salaire qui est durable et surtout qui donne droit à des cotisations sociales, alors que là, les RTT, nouvelle version monétisée, ne donnent plus droit à des cotisations sociales. Donc à la fin, ce sont les salariés qui perdent.
Des propos recueillis par Thomas Després pour RTL. Autre dispositif pour favoriser le pouvoir d'achat, il concerne les salariés qui disposent d'une épargne salariale. Cela permet, vous savez, d'avoir un gain supplémentaire lorsque l'entreprise réalise des bénéfices. En France, 9 millions de personnes sont concernées et vont donc pouvoir, à titre exceptionnel, Anaïs Bouissou, débloquer cette épargne de façon avantageuse.
Oui, vous allez pouvoir exceptionnellement débloquer votre participation et votre intéressement avant la fin de l'année, jusqu'à 10 000 euros. Les sommes que vous récupérerez seront sans impôts et sans cotisation. C'est une vraie souplesse pour les salariés, car à moins d'une exception, comme l'achat d'une maison, l'épargne salariale est en général bloquée 5 ans. Ce type de dispositif exceptionnel avait déjà été utilisé, notamment en 2008 par Nicolas Sarkozy. À l'époque, 6,5 milliards d'euros avaient été débloqués pour être consommés et réinvestis ailleurs. C'est un outil de plus pour récupérer un peu de pouvoir d'achat en période d'inflation, même si tous les salariés n'y ont pas droit.
Anaïs Bouissou du service économique et social de RTL. On le disait en titre, aujourd'hui il est plutôt conseillé de surveiller son compte bancaire. Je vous dis ça parce que vous pourriez avoir une bonne surprise, un virement de la part des impôts. En effet, l'heure est aux ajustements, Arnaud Touche.
Oui, près de 14 millions de foyers fiscaux vont bénéficier d'un remboursement versé au plus tard aujourd'hui. Deux cas pour que l'argent soit viré sur votre compte. Soit le taux de votre prélèvement à la source était trop élevé pendant l'année et du coup, eh bien, vous avez donné trop d'argent au fisc par rapport au montant de votre impôt. Et eh bien du coup, il vous rembourse. C'est bien normal, effectivement. Soit par virement, soit si vous avez donné votre RIB, bien sûr, soit un bon vieux chèque, ça marche toujours. Deuxième cas, le fisc vous restitue de l'argent aujourd'hui si vous bénéficiez de réductions ou crédits d'impôt effectués l'année dernière. C'est le cas par exemple pour les gardes d'enfants, les dons ou encore les emplois à domicile.
Alors ça, c'est pour les plus chanceux, on a bien compris Arnaud, mais il y a quand même près de 11 millions de foyers fiscaux qui ont un reste à payer.
Absolument, c'est notamment quand votre taux de prélèvement à la source n'était pas assez élevé pendant l'année et du coup, eh bien, vous n'avez pas versé suffisamment d'argent pour payer le montant de votre impôt. Si ce reste à payer, il est inférieur à 300 euros, il sera prélevé entre septembre et décembre, pas de panique, en une fois en revanche. Si c'est au-delà de 300 euros, eh bien ce sera pareil, mais en plusieurs fois, cette fois-ci.
Du coup, il va y avoir une petite appréhension à regarder son compte bancaire.
Exactement, il faudra regarder.
Merci beaucoup pour ces précisions, Arnaud Touche. Une nuit d'échauffourée à Limoges, dans le quartier du Val-de-Laurence. Des policiers ont prêté main forte aux pompiers venus éteindre un incendie de voiture. Jets de pierre, cocktails Molotov, ces derniers ont été pris à partie par une trentaine de jeunes qui ont brûlé deux autres véhicules. Le calme n'est revenu qu'à 4h du matin. La sécurité, justement, certains députés comptent en faire une priorité absolue. Cet après-midi, dernière séance de questions au gouvernement avant les vacances. Après une session, il faut bien le dire, très intense, qui a fait émerger de nouvelles figures, dont 4 anciens policiers élus du Rassemblement national. C'est d'ailleurs une première sous la Ve République. Alors, qui sont-ils? Quels sont leurs objectifs? Mathilde Piquet, vous avez enquêté pour RTL.
Oui, et le costume cravate de parlementaire ne leur fait pas peur. Romain Baubry sort de la préfecture de police de Paris. L'ancien syndicaliste est venu soutenir un de ses amis policiers en conseil de discipline.
Je suis venu ici en tant que député, mais avec dans l'état d'esprit d'un flic. Je crois que lorsqu'on a été flic, de toute façon, on le reste. Peu importe si l'uniforme, le costume n'est plus le même.
Alors ces 4 élus vont-ils défendre les intérêts de la profession avant ceux des Français? Michael Taverne est ancien flic, aujourd'hui député du Nord, et il l'assure, il ne sera pas l'homme d'une corporation.
Moi, je représente d'abord les habitants de ma circonscription. Les policiers, vous savez, quand ils quittent la tenue, ça devient des citoyens lambda.
Pour autant, la première proposition que défendra l'ex-gardien de la paix Antoine Villedieu, c'est la présomption de légitime défense pour les policiers.
On a des collègues qui hésitent aujourd'hui à répondre par la force. C'est inacceptable. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment que la peur change de camp.
Ces 4 hommes de terrain déterminés comptent bien peser dans le débat, mais ils vont devoir aussi composer avec les lenteurs de la vie de député.
Le reportage de Mathilde Piquet pour RTL. On fait une pause et dans un instant, la mort du chef d'Al-Qaïda en Afghanistan. Plus de 20 ans après les attentats du 11 septembre, la traque des États-Unis a fini par payer.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Après les attentats du 11 septembre, il faisait partie des terroristes les plus recherchés par les États-Unis. 21 ans après, Ayman al-Zawahiri a été tué par les Américains en Afghanistan. C'est Joe Biden en personne qui l'a annoncé cette nuit.
Samedi, les États-Unis ont mené avec succès une frappe à Kaboul pour tuer l'émir d'Al-Qaïda, al-Zawahiri. C'était le bras droit de Ben Laden. Et récemment, il a publié des vidéos appelant à attaquer les États-Unis. Justice a donc été faite. Ce leader terroriste n'est plus.
Le chef d'Al-Qaïda tué donc dans une attaque au drone sur un balcon en plein centre de Kaboul. Marc Lemans, vous êtes le correspondant de RTL en Afghanistan. Le fait qu'il ait été présent dans la capitale afghane soulève de nombreuses questions.
À Kaboul, cette frappe était déjà sur toutes les lèvres. Et bien, depuis plusieurs jours déjà, on a d'abord cru que la cible était un cadre de l'organisation État islamique. Et la présence en plein Kaboul du numéro 1 d'Al-Qaïda est pour le moins surprenante. Il semblerait qu'il logeait à Sherpur, dans les beaux quartiers de la capitale. J'ai tenté de me rendre sur place ce matin, mais le quartier est bouclé par les talibans. Il semble tout à fait impensable qu'il ait pu résider là sans l'accord du leadership taliban, ou du moins d'une partie du leadership taliban. Et il faut rappeler que les liens entre Al-Qaïda et les talibans avaient servi de prétexte à l'invasion américaine de 2001. Selon les États-Unis, la présence d'Ayman al-Zawahiri à Kaboul constitue une, je cite, « violation claire des accords de Doha conclus en 2020 », des accords en vertu desquels les islamistes s'étaient engagés à ne pas accueillir Al-Qaïda sur leur sol.
Marc Le Mans, correspondant de RTL en Afghanistan. On le disait, hein, il faisait partie des cibles que les États-Unis n'ont jamais lâchées. Bonjour Elie Tenenbaum.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et je voulais d'abord vous poser la question sur le lieu où a eu lieu cette attaque au drone. Il a été débusqué, al-Zawahiri, avec sa famille sur son balcon en plein centre de Kaboul. Est-ce que cela est surprenant ?
C'est surprenant, on va dire, dans la mesure où les talibans avaient signé en 2020 un accord à Doha dans lequel ils s'engageaient à ne pas permettre à d'organisations terroristes comme Al-Qaïda d'utiliser le territoire afghan comme sanctuaire. Et en même temps, c'est pas surprenant parce que cet engagement, personne n'y croyait depuis des années. Et la persistance des liens entre Al-Qaïda et les talibans, et notamment entre certains pans du régime taliban, notamment le ministre de l'Intérieur actuel, Sirajuddin Haqqani, attestait de la possibilité de maintien de ces liens et l'augmentation du nombre de vidéos, notamment faites par Zawahiri depuis 6 mois. Pointait vraiment dans la direction d'un retour de ce dernier en Afghanistan et sans doute d'un certain confort dont il jouissait à nouveau et dont il n'avait pas pu profiter depuis 20 ans, depuis la chute du régime des talibans après le 11 septembre.
Plus de 20 ans de traque, on imagine que cela demande d'énormes moyens.
Oui, ça demande un dispositif de renseignement global et évidemment, notamment en l'occurrence centré sur l'Asie centrale, l'Afghanistan, le Pakistan, des moyens de renseignement techniques, électroniques, des satellites, des drones, mais aussi du renseignement humain qui est absolument essentiel. Et je pense pas qu'une opération de ce type ait pu être menée sans avoir, d'une manière ou d'une autre, des agents sur le terrain qui ont pu confirmer un certain nombre d'aspects. Donc oui, les drones sont importants, mais c'est pas depuis un drone que vous scrutez Kaboul que vous allez tomber par hasard sur la maison d'Ayman Zawahiri. Donc il y a sans doute des interceptions de télécommunications, mais aussi probablement à un moment ou un autre un atout en termes de renseignement humain.
Alors effectivement, il y a autre chose que le drone, mais n'empêche que la façon d'avoir tué al-Zawahiri à Kaboul, on le rappelle quand même, un domicile qui frappe sa maison, sans laisser de traces d'explosion, qui ne font pas d'autres blessés, pas ou peu de dommages collatéraux, là aussi c'est une extrême précision.
Oui, absolument. Vraisemblablement, c'est un type de missile inerte, c'est-à-dire sans charge explosive, qui a été envoyé avec un système de lames qui s'ouvre. On parle de missiles épais ou de missiles ninja qui ont été envoyés, qui sont utilisés en fait pour vraiment limiter au maximum les dommages collatéraux, les pertes civiles. On se souvient qu'il y a un an, au moment de la prise de Kaboul, les États-Unis avaient fait une frappe de drone qui avait conduit à la mort de 10 civils et ils avaient été on leur avait reproché, et depuis il y a énormément d'efforts qui a été fait par les Américains, d'abord de retenue dans les frappes qu'ils auraient pu conduire, et puis d'efforts pour minimiser ce type de dommages collatéraux.
Qu'est-ce que cela change, Lieutenant-Bomb, pour l'organisation Al-Qaïda?
Alors, sur le plan organisationnel, au sens strict, opérationnel, le rôle de Zawahiri était de toute façon très limité. Al-Qaïda, depuis le 11 septembre, est une organisation qui se sait traquer et qui a adapté ses structures de commandement en conséquence. C'est-à-dire, c'était déjà le cas au moment de Ben Laden. On savait que finalement, le rôle opérationnel au quotidien dans la gestion des opérations est limité pour l'émir, et donc ça va rien changer à ce qui se passe au Mali ou en Somalie, par exemple, en ce moment, pour les opérations des filiales d'Al-Qaïda. Sur le plan symbolique, en revanche, c'est évidemment beaucoup plus important. C'est l'une des dernières grandes figures tutélaires du djihad mondial qui meurt avec Zawahiri, et sans doute l'avènement d'un chef plus jeune, peut-être moins reconnu. Ça peut créer éventuellement des tensions au sein de l'organisation, mais ça peut aussi lui insuffler du sang neuf. Donc éliminer un grand chef terroriste, c'est toujours un pari, hein, d'une certaine manière, pour les services de renseignement, puisque on sait qui disparaît, mais on ne sait pas qui va le remplacer.
Et est-ce qu'il y a d'autres cibles pour les États-Unis désormais?
Oui, les services de renseignement, la CIA notamment, a une liste permanente, roulante, si je puis dire, des chefs terroristes d'Al-Qaïda comme de l'État islamique. Il y a d'autres individus qui sont sur cette liste. On pense notamment à un autre Égyptien qui s'appelle Saif al-Adel, qui est vraisemblablement pressenti, hein, pour succéder à Zawahiri. Il y a aussi des chefs locaux pour les différentes filières d'Al-Qaïda, encore une fois, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et dans le sous-continent indien, qui sont eux aussi traqués régulièrement par les services et en permanence, en fait, par les services de renseignement américains.
Merci infiniment, Eli Tenenbaum, d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes chercheur, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI et notamment co-auteur de l'ouvrage « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. La Russie accuse les États-Unis de déstabiliser le monde. Elle dit que ce sera une provocation si Nancy Pelosi se déplace à Taïwan. L'éventuelle visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine suscite la colère de Pékin.
RTL Midi.
En France métropolitaine, plus aucun département n'est épargné par la sécheresse. Paris et sa petite couronne sont passés en vigilance, comme on s'y attendait. L'ensemble du territoire est concerné, et ça, c'est extrêmement rare. On cite souvent l'été 76 comme point de référence, comme l'été le plus aride, Virginie Garin. Risque-t-on de battre ce triste record?
Alors, on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Un record a déjà été battu, celui du manque de pluie en juillet. Il a moins plu le mois dernier qu'en 76. C'est même un record absolu. La pluviométrie n'a jamais été aussi faible depuis que Météo France fait des mesures depuis plus de 60 ans. Après, le niveau des nappes phréatiques est encore supérieur. En 76, la sécheresse avait commencé beaucoup plus tôt. L'hiver et le printemps avaient été secs, alors que cette année, il a plu quand même, de façon à remplir à peu près les nappes. Alors, on le voit sur le débit des rivières. Les rivières, en ce moment, elles sont alimentées par les nappes qui se vident. Si on prend la Meuse, son débit est un peu plus élevé qu'en 76, mais pas beaucoup, 2,2 mètres cubes par seconde contre 1,6 il y a 46 ans. Donc, s'il ne pleut pas en août, et malheureusement ce n'est pas prévu dans les prochains jours à part quelques orages, eh bien on risque de connaître une sécheresse égale ou pire qu'en 76.
Merci Virginie Garin, chef du service qualité de la vie. Et puis à 13h, nous reviendrons en détail sur la météo de ces prochains jours avec donc une nouvelle vague de chaleur qui débute. En foot, la saison de Ligue 1 ne commence que ce week-end, mais d'ores et déjà, le Vélodrome est sous tension. Les joueurs de l'OM ont demandé à rencontrer leur direction. Dès aujourd'hui, le management de Tudor ne passe pas du tout. Le nouvel entraîneur croate est loin de faire l'unanimité sur la Canebière, Hugo Hamelin.
Ouais, c'est Igor Terminator, hein, Igor Tudor Terminator dans le vestiaire, un hein, des joueurs blacklistés sans raison apparente, des prises de bec pendant la préparation. Un mois après son arrivée, les méthodes rugueuses de l'entraîneur croate ne passent déjà plus à l'Olympique de Marseille. Plusieurs joueurs, dont le capitaine Dimitri Payet, ont donc réclamé une réunion avec leur terrible pour tenter d'apaiser les choses. Une réunion qui aura lieu aujourd'hui. Selon nos confrères de l'équipe, du côté des supporters marseillais, Manu et Fares, on est assez partagé.
Parce qu'il faut leur mettre des claques. Donc Tudor, il a raison de faire ce qu'il fait. Moi, je suis d'accord pour créer de la discipline sportive. C'est quoi qui paye ? C'est le talent ou le travail ?
Il faut quelqu'un d'autre, parce que Tudor, certes, il a fait une bonne saison avec Vérone, mais il a encore rien prouvé, il a pas joué la Ligue des Champions. Il a peut-être pas aussi le caractère pour gérer, parce que c'est pas être strict qui va faire que l'équipe va tourner. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une réunion pour voir où on en est. Ça peut se débloquer, c'est juste que Tudor, faut faire un point avant que la Ligue 1 commence. Mais j'ai confiance. Moi, je m'en fais pas avec l'effectif, la Ligue des Champions, tout va être bien.
Tout ne pourrait être que mieux en tout cas, puisqu'après 3 défaites en 5 matchs de préparation, l'Olympique de Marseille va devoir régler ses états d'âme entre son effectif et son entraîneur Igor Tudor avant de retrouver la compétition. Ce sera dimanche avec la réception de Reims au Vélodrome.
Merci beaucoup Hugo Hamelin, direct de Marseille pour RTL. Toujours en football, le 3e tour préliminaire des qualifications pour la Ligue des Champions pour Monaco, c'est ce soir. Match aller face au PSV Eindhoven, coup d'envoi à 20h.
RTL Midi. RTL en immersion.
C'est l'un de vos rendez-vous de l'été. Les journalistes de RTL testent un nouveau métier. Pilote d'avion, sauveteur en mer, moniteur de surf, agriculteur ou encore cuisinier. RTL en immersion ce midi va se passer au milieu des peintures et des sculptures du magnifique musée des Arts de Nantes. Odile Pouget, vous vous êtes glissé dans la peau d'un agent d'accueil. Une journée qui commence dans les sous-sols de cet immense bâtiment de 17 000 mètres carrés en plein centre-ville. Et c'est Virginie Morel qui a été votre guide.
On descend au vestiaire et je vais vous donner votre tenue.
C'est un petit dédale. Hein,
ah, tout à fait. Un labyrinthe, la première fois qu'on vient, c'est pas facile. Donc, l'espace du personnel.
Alors, ça se présente comment ? Il y a des petits casiers.
Voilà, ils sont numérotés. Donc, vous aurez le casier 21 pour la journée.
Alors, j'enfile. Ah, j'ai un superbe t-shirt rose.
Rose fuchsia, voilà, qui se voit bien.
Là, on est obligé de porter la veste, là.
Et ça serait mieux, puis vous verrez peut-être que vous allez la supporter. Les œuvres, elles doivent être conservées à une température constante. Normalement, on est autour de 20 degrés. Les espaces sont assez grands. Il y a des fois où on peut ressentir un petit coup de frais. On va remonter par ici. On allume les imprimantes. On navigue d'un espace à l'autre. Un petit marathon des fois.
Bon, il faut se dépêcher. J'assiste au briefing quotidien avec toute l'équipe.
Moi, je préfère que vous soyez avec moi dans le hall.
Dernière opération, l'allumage de l'exposition temporaire consacrée à la forêt. Télécommande en main.
Il faut appuyer sur les 3 premiers boutons.
Comme ça ?
Voilà, exactement.
J'y vais.
Super ambiance tamisée, très peu de lumière. Oh, c'est chouette parce que on a le musée pour soi tout seul.
Oui, c'est ça.
Retour dans le hall, il est 10h pile.
Oui, c'est bon.
On ouvre.
On ouvre, voilà.
Et les enfants, ils sont déjà au taquet là.
Ah ben c'est ça.
Oui, parce que mon premier poste de la journée, c'est l'accueil d'un groupe scolaire, une trentaine d'enfants entre 8 et 9 ans, avec leur institutrice, un peu perdue, comme moi.
Pourriez-vous nous indiquer la salle pour retrouver le Colonel Awards, s'il vous plaît ?
Colonel Awards, c'est loin, hein ? C'est allez, au premier. Je vous accompagne. Est-ce qu'on a tous les enfants là ? Il en manque un. Faut pas perdre les enfants, hein.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On a déjà fait des fois, comme dans les grands magasins, des appels micro pour des enfants qui étaient perdus.
Coachée par Virginie, je tente de faire appliquer les consignes.
Alors, on ne court pas.
Ah oui. Et on ne touche pas les tableaux. On peut s'approcher quand même un tout petit peu, mais pas trop.
Pas trop près, voilà.
Pas trop près, hein.
Respecter une distance.
Et on s'assoit.
Ma mission, c'est vraiment faciliter le parcours du groupe, la découverte de 4 œuvres en 1 heure chrono.
Cette sculpture monumentale en plâtre représente le colonel Howard, figure héroïque de la guerre d'indépendance américaine.
Et Odile, votre travail ne s'est pas limité à l'accueil de groupes scolaires, vous avez dû accomplir une multitude de tâches.
Oui, on donne des informations sur tout, l'emplacement d'une œuvre. Il y en a quand même 900 d'exposés, mais aussi la localisation des toilettes, la location d'audioguides. Un des postes clés aussi, c'est la billetterie, dans le hall d'accueil, derrière une vitre plexiglas.
Et là, il faut ouvrir le logiciel de la caisse. On arrive là sur l'écran de vente. Oh là là, ça a l'air compliqué. Hein. Carte de réduction, carte sésame, 4 euros. Carte loisirs, 18-25 ans, c'est donc demi-tarif aussi. Ah, les amis du Louvre, je suis perdue déjà.
Toute une formation pour les tarifs.
Ah, nous avons du monde. Ouais. Bonjour.
Tarif plein et un tarif réduit.
Alors, vous n'avez pas de carte de réduction, d'accord. Tarif réduit TR. Je fais paiement sur la petite touche verte. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Et là, encaisser. Hop, on vous souhaite une très bonne visite.
Merci.
Oui, alors vous avez pris le plan? Parfait.
Ouf, j'y suis arrivée avec l'aide précieuse de Virginie. Virginie, titulaire d'un BTS de tourisme. C'est un peu la formation classique. Un job payé environ 1400 euros net pour 35 heures par semaine.
Alors, on veut savoir, évidemment, Odile, au terme de cette journée au musée, qu'avez-vous préféré? Avez-vous été séduite par ce métier?
Ah oui, ce qui m'a plu, c'est évidemment le contact avec le public de tous âges, le décor. On est entouré d'œuvres d'art, on évolue dans du beau. Évidemment, c'est un métier très fatigant, on piétine beaucoup. Un métier qui nécessite aussi une bonne humeur à toute épreuve. Alors, quand je lui ai demandé si j'étais faite pour cela, voilà ce que Virginie m'a répondu.
Vous êtes joviale, vous avez le sourire.
Je suis un peu étourdie.
Ah, mais ça se corrige. Puis après, on peut pas tout apprendre en un jour. Hein, alors.
Vous voyez, il y a de l'espoir.
RTL en immersion, signé Odile Pouget. Tous les épisodes sont à retrouver, je vous le rappelle, hein, sur notre appli, mais aussi sur le site rtl.fr. La mort de Michel Berger, c'était il y a 30 ans, jour pour jour. Le chanteur-compositeur succombait à une crise cardiaque juste après une partie de tennis à Ramatuelle. Il nous a donc quitté le 2 août à l'âge de 44 ans. Michel Berger, quel souvenir gardez-vous de lui? Quelle est votre chanson préférée? Dites-nous, on vous attend évidemment au 3210. Et vous le savez, vous pouvez réagir sur de très nombreux sujets. À tout de suite.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.